Je vous propose tout de suite de retrouver nos invités juste après ce petit générique. Et c'est des représentants de Jalmalve qui sont donc venus dans notre studio pour nous parler d'une formation, d'une journée d'information très prochainement, le 1er avril. Bonjour.
Bonjour.
Alors, si vous voulez vous présenter.
Oui, donc à côté de moi, Annie Pegolotti, qui est la présidente de Jalmalve Haute-Provence, qui est donc l'association Jalmalve locale qui fait partie de la fédération Jalmalve. Et moi-même, Pierre Sambrin, je suis le coordinateur des bénévoles pour Jalmalve Haute-Provence et accessoirement aussi le trésorier de l'association.
Ouais. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc nous allons vous présenter la journée que nous organisons le 1er avril 2023. Cette année, c'est une grande année puisque nous avons 30 ans. Alors au niveau, pour faire un bref historique de l'association Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie, et je dis toujours que c'est le V de vie qui est le plus important, nous allons faire un petit retour en arrière. Jalmalve 04 a été créé en 1993, suite à l'expérience de soins palliatifs qui avait été initiée par Mutalp. Mutalp possède, c'est un autre nom maintenant, mais je veux dire, il y a un service de soins infirmiers pour personnes âgées à domicile. Donc cette année-là, en fait, depuis les années 90, ils ont eu un crédit pour faire une expérience de soins palliatifs à domicile. Et ça a été une grande expérience et une belle réussite. Malheureusement, après, les crédits n'ont pas suivi, il est resté l'esprit. Donc, qui dirigeait l'équipe à cette époque? C'est notre actuelle référente pour les groupes de parole, etc., Michel Piquet. Donc, suite à cette expérience qui s'est terminée donc, dans les années en 93, les bénévoles de l'époque, puisque ce service de soins infirmiers, allaient à domicile, faisaient les soins. Ce n'était pas du tout une équipe de coordination. Vraiment, ils allaient à domicile, ils faisaient tout. Il y avait une infirmière clinicienne, il y avait un médecin dédié, il y avait des soins de relaxation. Enfin bon, je veux dire, c'était vraiment, ils suivaient les personnes à domicile, ils allaient les voir à l'hôpital s'ils étaient hospitalisés. Pour moi, ça a été une grande réussite qui a donné lieu à l'époque à de bons comptes rendus. Et donc, les bénévoles de l'époque, dont une dame qui s'appelle Katia Daguenay, a dit on ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc a été créée l'association de bénévoles qui à l'époque rayonnait sur tout le département et parce que Katia Daguenay résidait à Manosque. Bon, elle est partie maintenant. On essaie de la remplacer, de lui succéder. Personne n'est remplaçable au mieux. Voilà, donc c'était une action très importante. Alors, depuis, nous ne rayonnons plus sur tout le département, mais plutôt autour de Digne, puisque sur Manosque, qui a l'association soins palliatifs, l'ASP. Et je signale tout de suite que, malgré notre souhait à l'époque, on a beaucoup travaillé pour ouvrir des lits de soins palliatifs, un service de soins palliatifs, ça n'a pas, avec Madame le docteur Granet, ça n'a pas pu se faire. Mais depuis octobre, il y a quand même 10 lits de soins palliatifs sur l'hôpital Manosque. Donc c'est déjà plus près qu'Aix et Marseille ou Gardanne, donc c'est déjà bien pour le département. Espérons que des lits sur Digne suivront. Alors, en cette année d'anniversaire, nous allons donc faire plusieurs actions. Donc déjà celle du 1er avril. Après, à l'automne, nous ferons une matinée à l'atrium d'accueil. Et ensuite, peut-être, on essaiera de le faire le jour de la Journée internationale des soins palliatifs. On va essayer d'organiser un film commenté par, on va dire, une personnalité des soins palliatifs et les équipes de soins palliatifs de Digne et bien sûr de Manosque.
Quand est-ce que c'est la journée nationale?
Alors, normalement, c'est le 14 octobre, voilà, un samedi. Donc, on verra si c'est possible d'organiser quelque chose le samedi. Alors, cette action entre cette année aussi, c'est 2023, c'est aussi la poursuite de la campagne initiée il y a 2 ans. Il y a eu une grande campagne avec 2 parties. Donc l'an dernier, c'était favoriser l'augmentation de nombre d'adhérents. L'année d'avant, c'était des bénévoles. Il est certain que si ça, c'est la fédération, donc on a des réunions déjà de prévues en visio, ce qui nous évite déjà d'aller sur Paris. Donc l'an dernier, on a fait plusieurs actions, comme être sur le marché, être dans la galerie de Carrefour, organiser une conférence. Donc on a eu quand même quelques adhésions et quelques nouveaux bénévoles. Voilà. Donc cette année, ça se poursuit. Et donc, on aura sûrement d'autres actions dans le cadre de cette campagne et de notre anniversaire. Alors, la première journée pour fêter 30 ans, on est dans la force de l'âge, là. Donc, c'est l'année où on veut être encore plus nombreux, etc. Alors, c'est soit une journée, soit une demi-journée. C'est sur inscription. Donc, on a essayé de faire passer le plus possible l'information. Donc, je rappellerai à la fin les coordonnées pour nous joindre. Ça a lieu à l'Atrium. Alors, c'est en deux parties. Alors, pour la matinée, ce sera de 9h15 à midi. Pour ceux qui ne voudraient venir que l'après-midi, ce sera de 14 à 17h. Sinon, bon, bien sûr, c'est la journée, c'est de 9h15 à 17h. Et nous allons partager un pique-nique sur place, donc style auberge espagnole. Chacun ramène quelque chose et ça fait un petit moment convivial, ce qui n'est pas inintéressant. Souvent, il se passe beaucoup de choses dans les interfaces de ce genre de rencontres. Alors, il y aura bien sûr des personnes qui seront intéressées. On en a déjà qui sont inscrites. Il y a encore quelques places. Mais il y aura aussi des bénévoles qui vont témoigner de leur action, de leur accompagnement, de leur rôle au niveau de Jalmav, etc. Alors, un contenu qui n'est pas exhaustif. Pour la matinée, nous allons donc représenter Jalmav. Il y a encore des personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissent pas assez. C'est vrai que les adhérents, eux-mêmes, on leur dit « vous êtes nos ambassadeurs ». Je veux dire, ils disent un petit peu ce qu'on fait, nos valeurs, nos objectifs, etc. Alors nos actions, comme on le dit toujours, on a toujours ces deux pieds, ces fameux deux pieds, c'est-à-dire le fait d'accompagner des personnes très malades, très âgés, éventuellement en fin de vie, leur entourage. On accompagne aussi les endeuillés. Donc, c'est une partie, alors avec des bénévoles formés, suivis, puisqu'on a un groupe de parole mensuel, sauf les deux mois d'été. Il y a une formation, donc cette journée du 1, c'est déjà une première petite partie pour des gens intéressés. C'est à la fois de l'information et de la sensibilisation. Bon, après, il y a une formation initiale qui est sur une année. Et ensuite, il y a la formation continue, une ou deux séances par an. Voilà. On fait aussi des bilans avec les bénévoles pour voir où ils en sont, dans leur motivation, etc. Voilà. Donc, ça, c'est... Et puis, bien sûr, que le deuxième la partie, comme le dit, je veux dire, le grand objectif, c'est de faire évoluer les mentalités autour de la mort. Et ça, c'est encore un grand travail parce qu'en France, on ne meurt pas. On le dit tout le temps. Et c'est vrai qu'on ne veut pas en parler. Bon, ce n'est pas facile. Alors, pour dire deux mots, sur DIN, nous travaillons essentiellement avec des EHPAD, avec l'équipe territoriale de soins palliatifs de l'hôpital. On essaie d'ouvrir d'autres lieux. On essaie d'ouvrir sur l'hôpital, on essaie où on était avant. On a ouvert l'EHPAD d'Entrevaux. Donc, on est sur Baligé, on est quand même à Thouars, on est aux Lavandines, à l'EHPAD de Notre-Dame-du-Bourg avec ses deux sites, Saint-Martin et le Bourg. Bien sûr, au Cousson, où il y a des lits dédiés aux soins palliatifs. Donc, bon, quand même un grand rayonnement avec quand même 17 bénévoles actifs. Voilà. On a eu un petit peu des pertes, on a des nouveaux, on a eu un petit peu des pertes suite au Covid. Par exemple, de futurs bénévoles ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Nous, l'impératif, quand c'était très strict, c'était bien sûr de protéger les personnes qu'on allait voir et de se protéger soi-même. Donc, il fallait être vacciné et avoir ce fameux pass. Voilà, nous avons une permanence, nous avons un numéro d'appel téléphonique qui peut être joint tous les jours. Voilà, ça c'est la présentation de Jalmav que nous détaillerons. Il y aura un deuxième chapitre, c'est l'historique des soins palliatifs, d'où ça vient, où ça va, où ça en est à ce jour, avec bien sûr la notion que soins palliatifs, ce n'est pas synonyme de mort immédiate. Soins palliatifs, ça veut dire qu'on a une maladie qui ne veut plus être traité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des traitements, mais je veux dire, on sait déjà qu'à long terme, il n'y aura pas de guérison. Mais ça peut être à très long terme. Et c'est important de ne pas attendre la fin de la maladie, je dirais, pour être pris en charge. Soins palliatifs, on a vu des personnes, y compris entrer dans des services de soins palliatifs et en ressortir, une fois qu'on a traité la douleur, les symptômes, etc.
Oui, les donc, tout l'historique. Les soins palliatifs, c'est pour améliorer le confort des personnes.
Tout à fait. C'est une vision. Alors, bien sûr, faudrait que ça veut dire la philosophie du soin palliatif, faudrait qu'elle s'applique à toute personne hospitalisée. Bon, on sait ce qu'il en est, des moyens donnés aux hôpitaux, etc. On ne va pas refaire ça. Rappelons que Jalmav, c'est apolitique et laïque, ce qui ne nous empêche pas d'essayer d'avoir des actions pour les citoyens. Voilà, donc l'historique du soin palliatif et le fait qu'il faut vraiment dédramatiser ce mot. Voilà. Alors ensuite, nous parlerons des différents bénévolats possibles à Jalmav. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement par des bénévoles formés et suivis. Les bénévoles de structure qui sont au conseil d'administration, parce que bon, comme toute association, loi 1901, minimum, il y a un président, vice-président, un trésorier adjoint, secrétaire adjoint et des membres. Donc on se réunit 3-4 fois par an et puis de temps en temps avec des réunions, tout ça pour décider des actions à mener, s'organiser, se rencontrer, faire au mieux. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le bénévolat de cité. Donc des personnes qui ont moins de temps, pour être au conseil d'administration, ce n'est pas un temps énorme, mais bon, ça dépend des rôles. Le bénévolat de cité, c'est de participer quand on fait des conférences, des actions grand public, par exemple, quand on a été sur le marché de Digne, quand on est sur le forum, quand on va, entre guillemets, porter la bonne parole. Par exemple, je le redirai, mais au niveau des directives anticipées, on est quand même sollicité pour aller donner des explications. On y est allé au Cousson, on l'avait fait au Lavandine, on l'avait fait à Thouars. On peut donner de l'information à tout. On a généreux donateurs qui sont l'Inerwil, le Lyons et le Rotary, donc où on offre toujours la possibilité de nous utiliser pour faire passer de l'information. Voilà. Alors, les bénévoles, on a aussi pas mal d'adhérents. Hein. Cette année, on en a combien, Pierre, à peu près?
On est environ à 70. Là,
voilà, 70. Bon, c'est pas mal. On était 100 quand on était avec Manosque. Donc, c'est un gros travail aussi. Hein, on a aussi ce qu'on appelle les sympathisants. Les adhérents, moi, je dis toujours, ce sont nos ambassadeurs. Donc, c'est important, ils ont un rôle, d'abord par leur cotisation, 25 euros par an et 40 euros pour un couple, c'est modique. Alors on sait que tout le monde est très sollicité, mais c'est vrai que nous, on a besoin de ces adhérents, parce que notre budget, c'est la formation essentiellement. Voilà.
C'est assez peu quand même, 70 adhérents.
Écoutez, il y a des grandes villes, ils n'en ont pas autant.
Ah bon, d'accord. Ouais.
Non, c'est, vous savez, c'est difficile, hein. C'est un sujet pas facile. Hein. Donc, on aimerait 120 hein, ou 150, hein, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Voilà, donc nous arrivons à la pause. Et l'après-midi, nous parlerons essentiellement, dans un premier temps, de la loi Léonie Cleps. Alors je te donne la parole, Pierre, si, par rapport à la loi, parce que Pierre nous a fait une note de synthèse très intéressante. Et c'est vrai que cette loi Léonetti, que l'on veut changer, améliorer, elle n'est ni connue ni appliquée correctement, ce qui, de notre point de vue, suffirait bien dans 99,9% des cas.
Oui, alors là, effectivement, la loi classe Léonetti est mal connue, et pas seulement du grand public. On s'est rendu compte qu'elle était peu connue également par le personnel soignant. Et pas seulement peu connue, également relativement mal appliquée. Évidemment, vu qu'elle est mal connue, l'application est plus complexe. Alors, la loi Claeys-Leonetti, elle interdit toute obstination déraisonnable dans le traitement des maladies et des patients et l'obligation de respecter la décision du patient. Elle prévoit en fin de vie le recours possible à la sédation, intermittente ou continue. Et je crois que c'est important de préciser ça dans le contexte actuel où on parle d'euthanasie et de suicide assisté. C'est qu'on s'est rendu compte dans beaucoup de cas que les patients qui souhaitaient, qui avaient exprimé le désir de mourir, à partir du moment où la douleur était prise en charge correctement, et pas seulement la douleur, mais qu'ils étaient accompagnés, traités dans le contexte d'un service de soins palliatifs, qui peut être à l'hôpital, mais qui peut en principe aussi être à domicile, eh bien souvent, ces patients reviennent sur ce désir de mourir et ne l'expriment plus. Parce que effectivement, la prise en charge de leurs douleurs, de leurs problèmes, ben, leur permet d'approcher leur finalité, je vais dire, plus sereinement et de renouer contact avec leur famille et de se trouver, ben, je dirais, dans un processus apaisé de fin de vie. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose que l'on constate. Mais ça signifie, ça veut dire que les institutions, que le système de soins de santé se donne les moyens et qu'on les lui donne également les moyens pour mettre en place ces services de soins palliatifs. Et ce ne sont pas quelques lits plic-ploc dans les hôpitaux qui vont faire l'affaire. Il faut véritablement un service avec une intégration des différents types de soins médicaux, psychologiques, l'accompagnement, de la kiné, etc. Et comme je l'ai dit, pas seulement dans les hôpitaux, mais également au domicile. Et notre position à Jalmalv, c'est que avant de considérer des changements législatifs, ben, ce serait peut-être bien d'essayer d'appliquer au mieux les dispositions législatives qui existent. Et malheureusement, dans le cadre, je dirais, de la crise du système de soins en France, ben, les soins palliatifs ne font pas exception à la règle. Ils sont souvent un peu le parent pauvre des différents services qui sont offerts aux patients. Alors, dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, il y a également tout un chapitre que nous allons traiter relatif aux directives anticipées. Et là également, on constate que c'est souvent quelque chose qui est mal connu, à la fois par le public et par par le personnel soignant. Et les directives anticipées, elles donnent le droit de dire à l'avance sa volonté sur les conditions de poursuite, de limitation, d'arrêt ou de refus de traitement ou d'actes médicaux pour le cas où le patient ou la personne serait un jour dans l'impossibilité de les faire connaître. Donc, en fait, on exprime ses volontés à l'avance. Et elles sont modifiables et révocables à tout moment. Et en fait, il y a, je dirais, un peu une réticence de la part de beaucoup de gens à vouloir formuler les directives anticipées parce que ça les amène à considérer leur propre mort, alors que finalement, on sait qu'on va tous y passer. Et faire les directives anticipées, rédiger ces directives anticipées, ben, ça ne provoque pas la mort. Simplement, ça permet de réfléchir à un moment où on est serein, à un moment où on n'est pas dans l'urgence, ben, aux conditions possibles de la fin de vie. Et si tout le monde faisait ses directives anticipées, ben, ça éviterait le genre de problème auquel parfois les familles sont confrontées lorsque une personne, effectivement, est dans le coma, par exemple, et n'a pas exprimé ses souhaits quant à sa fin de vie. Et là, on a des débats entre différents membres du clan familial, le personnel médical, et bon, on ne sait pas très bien dans quel sens on doit aller. Et parfois même, ça finit en justice, comme vous le savez. Alors donc, nous allons parler de ces directives anticipées. Et pour dédramatiser un petit peu le sujet et le rendre un peu ludique, ben, l'association Jalmalv a créé un jeu qui s'appelle « À vos souhaits », qui est un jeu de cartes. Bon, je ne vais pas dévoiler les règles du jeu ici, mais qui, en fait, place les différents joueurs dans des situations hypothétiques et leur permet en fait de réfléchir à ce qui devrait effectivement, quels seraient mes souhaits dans telle ou telle situation. Bon, et ça permet, comme je l'ai dit, de dédramatiser un peu le problème. Alors il y a d'autres choses qu'on peut édicter dans cette directive anticipée, par exemple le refus de l'acharnement thérapeutique, comme on le disait avant, donc c'est l'obstination déraisonnable, c'est la terminologie actuelle. On peut également y insérer le refus ou l'autorisation du don d'organes, certains traitements spécifiques en relation avec des maladies graves. Et en fait, il y a très peu de conditions de forme pour les rédiger. Il faut avoir 18 ans, il faut faire un document manuscrit ou dactylographié, daté, signé, désigner éventuellement une personne de confiance. Alors là également, la personne de confiance, c'est quelque chose dont nous allons parler. Ce n'est pas nécessairement lié aux directives anticipées. On peut faire ces directives anticipées sans désigner de personne de confiance, et on peut avoir une personne de confiance sans avoir rédigé ces directives anticipées, mais les deux vont mieux, je dirais, lorsqu'elles sont faites ensemble. Donc la personne de confiance, ça peut être un parent, un proche, un médecin, qui sera consulté au cas où la personne elle-même est hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir les informations nécessaires pour prendre une décision quant à la poursuite des traitements ou les conditions de la fin de vie éventuelle. Alors, souvent, il n'est pas, je dirais, suffisant de désigner une personne de confiance. Ce qui est, je dirais, optimal, c'est de rédiger ces directives anticipées avec la personne de confiance, de façon à ce que cette dernière puisse bien comprendre le sens des directives anticipées et les interpréter dans des cas concrets qui pourraient se présenter. Donc c'est important que cette personne de confiance entretenu un dialogue préalablement ou de concert avec la rédaction des directives anticipées pour jouer au mieux son rôle au cas où il viendrait à se concrétiser.
Voilà, donc on fera des ateliers avec ce fameux jeu de cartes l'après-midi, et ça permettra d'un petit peu réfléchir à... C'est pour chacun les priorités, réfléchir à sa fin de vie, ce qui compte, être au clair, prendre conscience de ce qui est important pour soi à ce moment-là, mettre en mots, oser dire, voilà. Et si vous voulez, l'objectif de ce jeu, c'est se préparer à vivre sa vie jusqu'au bout comme on le souhaite. Voilà. Alors bon, comme le disait Pierre, je veux dire, penser à sa mort, ça ne fait pas mourir. Hein. Au contraire, ça, savoir qu'on meurt quelque part, ça permet de mettre peut-être le point essentiel sur certaines actions que l'on a menées. Voilà, c'est pas inintéressant.
Donc ce jeu de cartes, est-ce que c'était quelque chose qu'on peut trouver auprès de vous ?
Alors on peut le commander à la fédération.
Et comment ça se joue, si alors, ça se joue ?
Si vous voulez, sans dévoiler toute la méthodologie, mais si vous voulez, on fait trois priorités. Je veux vraiment ça, je veux un peu ça, j'aimerais ça. Et donc, ça permet de discuter et d'entamer une discussion à plusieurs autour de cette problématique. Voilà. Je veux pas souffrir, je veux pas être seule. Tout ce style de propositions qui sont sur les cartes.
Voilà. Donc ça, ce sera l'après-midi.
Alors ce sera l'après-midi, l'atelier. Là, voilà. Alors on peut s'inscrire soit pour le matin, soit pour l'après-midi, soit pour la journée entière. Et c'est une façon de mieux nous connaître. Et on fera d'autres actions, comme je vous l'ai dit, au cours de l'année.
Puisque ceux qui viennent le matin n'ont pas les mêmes. C'est pas la même chose que l'après-midi.
Non. Hein, comme je l'ai dit, dans le programme, le matin, c'est Jalmab, les bénévoles, tout ça. Donc, c'est des généralités. Alors, c'est vrai que l'idéal, c'est d'être là la journée, mais on sait très bien que, vu les emplois du temps de tout le monde, et je reprécise qu'il y aura des bénévoles qui parleront de leur expérience, de leur formation, de leur vie à Jalmab. Bon, parce que. Mais. On le dit tout le temps, même des personnes qui ont été adhérentes, qui ont fait du bénévolat, qui sont parties. Ben, je veux dire, Jalmab, c'est un plus. Je veux dire, c'est un plus parce que on réfléchit à des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Donc, ça part de soi. Hein, je veux dire, c'est une évolution personnelle. Et ça permet aussi d'aborder, par exemple, plus facilement la maladie d'un proche, sa fin de vie, la sienne. Bon, je veux dire, c'est pas miraculeux, c'est pas ce que je veux dire, et c'est pas. C'est important, c'est important, voilà.
Je voudrais préciser pour le jeu de cartes. En fait, on peut le trouver, c'est très facile sur Internet. On peut taper à vos souhaits carte ou jeu de cartes et vous allez tomber sur un site qui est le PUG, P-U-G, éditeur de savoir. Je crois qu'ils sont à Grenoble et on peut commander le jeu de cartes en ligne, c'est quelques euros.
Merci.
Voilà, alors je voulais un petit peu, pour conclure, parler de la position de la fédération par rapport à l'évolution de la loi. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est pas de jugement moral, mais pas d'aveuglement. Donc, bien sûr, la fédération n'est pas pour légaliser l'euthanasie et l'assistance au suicide. Alors, ils disent non pas au niveau de la légitimité des demandes individuelles d'en finir, mais au niveau des conséquences sociales des réponses législatives. Envisagées à la demande d'une majorité de bien portants, ces réponses apparaissent néfastes pour la majorité des personnes qui seront directement concernées, personnes fragiles, proches et soignants. Alors, nous alertons sur ces conséquences. Danger d'une nouvelle norme du bien mourir qui deviendrait légitime et citoyenne et s'imposerait aux plus vulnérables. Danger d'aggraver le sentiment de dévalorisation, d'auto-dépréciation de ceux qui doutent de leur vie. Danger de réduire la question de la fin de vie à la question de l'euthanasie en occultant et en déniant le sens de ce temps de vie et d'accompagnement. Danger de porter atteinte au développement et à l'accès des soins palliatifs à tous. Danger d'une loi où le règlement de situations particulières se ferait au détriment de la protection du collectif. Aucune loi ne pourra régler toutes les situations singulières. Aucune loi ne pourra clore une fois pour toutes la question du mourir. Alors, les changements que demande la Fédération dans les pratiques et la politique de santé. Que les rares situations qui ont acculé la loi à ses limites soient analysées et que l'on puisse travailler ensemble, malades, soignants, associations sur le terrain, citoyens, aux différentes réponses possibles avant de légiférer. Que la parole des personnes en fin de vie sur leurs souhaits soit recueillie, ce que disait Pierre sur les directives anticipées. Parce qu'on s'est bien rendu compte que plus il y a d'obstination déraisonnable et plus il y a de demandes d'euthanasie. Que soit mise en place une véritable politique de santé pour permettre un accès aux soins palliatifs à tous et partout. Développer la culture palliative pour tous les soignants. La solution n'est pas de supprimer la fin de la vie, mais de soulager et d'accompagner tous ceux que la mort menace.
À cet égard-là, je crois que c'est intéressant de préciser que lorsque l'on fait des sondages auprès de la population, on se rend compte que la majorité des gens souhaiteraient, en fin de vie, mourir à domicile, entourés des leurs. Alors que dans les faits, on se rend compte que la plupart des gens meurent à l'hôpital, et pas seulement à l'hôpital, dans les soins d'urgence, où on sait que l'accompagnement n'est pas la priorité, hein, on est par définition dans l'urgence. Donc, pour nous, l'évolution de la législation doit aller plus dans ce sens-là que de favoriser l'euthanasie ou le suicide assisté. Pour nous, le problème est mal posé, il n'est pas là.
Alors donc, d'appliquer la loi actuelle qui concerne l'immense majorité des personnes qui vont mourir, sans ajouter une loi pour ceux qui veulent mourir ou pour des cas particuliers qui s'opposeraient à tous. Surtout, de modifier le regard sur la grande vieillesse, la maladie grave, la fin de vie, de mettre en place un véritable plan grand âge et handicap pour que chacun se sente inclus dans la société et non à charge et abandonné. C'est facile de lire dans les yeux de quelqu'un qu'on ait une charge. C'est vrai que la dignité, elle se lit dans les yeux de l'autre. Et pour que chacun ait des conditions de vie et de soins dignes. De réhabiliter la présence de ceux qui vont mourir, accompagnés en fin de vie, c'est le cœur de notre humanité. Faire de l'accompagnement de fin de vie une cause nationale. Développer la solidarité collective, puisque nous vivons une communauté de destin. Parler de l'amour avec les enfants, les adultes, pour lutter contre l'inculture qui alimente le tabou et l'angoisse. Et donc, dans cet article, la Fédération rappelle deux affirmations du projet associatif. Nos citoyens ont deux peurs, l'abandon et l'acharnement. Défendre une approche humaine de la fin de vie et ne laisser personne seul face à la mort. Voilà. Donc, nous, on est dans ce thème-là. Et c'est vrai qu'on a eu l'an dernier une conférence par le docteur Cayol, à laquelle vous avez assisté, qui était très intéressante, qui était légitime ou légitimité. C'est vrai que ben, des personnes, ça peut être légitime. Mais après, donc, au niveau après de l'application, ça pose problème. Il faut réfléchir à ça en termes d'éthique. Voilà. Je voulais dire aussi que... on entend dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas devenir un légume. » Nous, on raye vraiment ce mot de notre vocabulaire. Un être humain n'est jamais un légume. Un être humain, c'est un être humain. Il est digne, c'est intrinsèque à sa qualité d'être humain. Un être humain peut effectivement perdre des compétences. Et dans cette perte, qui est un deuil, c'est vrai qu'il a besoin d'être accompagné. Nous qui voyons beaucoup de personnes âgées dans les maisons de retraite, ben on leur dit, je veux dire, c'est vrai que notre regard ben fait que pour eux, souvent ils nous remercient à la fin de la visite. Je veux dire, ils sont encore là. On s'adresse surtout à des personnes qui n'ont pas de famille, etc. Et vraiment, c'est une action qui coûte peu. Je veux dire, qui à la fois apporte du bien-être et qui nous conforte dans notre compétence humaine d'écoute. Voilà.
Il vaut mieux s'inscrire. Voilà. Il reste quelques places. J'imagine qu'il n'y a pas énormément de places. C'est dans la salle de l'Atrium.
Alors, c'est à la salle de l'Atrium.
Le 1er avril, c'est un samedi ?
C'est un samedi. Alors, bon, bah, après, je veux dire, on réglera au mieux. Si vraiment on a foule, on réglera au mieux. Je vous rappelle le numéro de téléphone,
oui,
06 87 85 67 40 ou aller sur par notre mail jalmav04@wanadoo.fr. Donc, Jalmav, J-A-L, jusqu'à la mort, J-A-L-M, et A-L-V, accompagner la vie, avec un grand V.
Annie Pégolotti, merci. Et j'ai oublié votre nom, Pierre.
Pierre, oui. Pierre
Sommas. À très bientôt, donc, pour cette journée d'information, pour mieux accompagner donc, nos proches et voir comment on rédige des directives anticipées. Voilà. On saura tout en venant le 1er avril à Digne-les-Bains, à la salle de l'Atrium. Merci.
Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Merci à Fréquence Mistral.
Au revoir.